Europe 1.
Bonjour, c'est Fabrice Dalméda. Dans cet épisode un peu spécial, nous allons prendre de la hauteur. Je vous emmène à la découverte de la conquête spatiale, vue de France, avec notre spationaute.
Au cœur de l'histoire.
Oui, allô ?
Oui.
Bonjour Thomas, bravo, vraiment bravo à vous.
Merci Monsieur le Président.
Bon, comment vous vous sentez ?
Eh bien écoutez, ça va très bien. Je me réhabilite doucement à la gravité, ou même tenir ce téléphone. c'est la chose la plus difficile que j'ai faite depuis 6 mois. Mais non, ça va très bien. On a tout s'est bien passé. Le véhicule a fonctionné de manière absolument splendide. Et l'équipe qui nous a récupéré est hyper professionnelle. Donc tout va bien, on est bien entouré. On va très très bien. Merci beaucoup.
C'était Thomas Pesquet en conversation avec le président de la République, Emmanuel Macron, au moment où il s'apprêtait à prendre le chemin de retour vers la France. Il le confesse aujourd'hui, le retour à la gravité n'était pas si facile.
Je mentais complètement, ça n'allait pas très très bien. Non, enfin, le retour est difficile. Le corps a changé, s'est adapté à l'espace et là tout d'un coup on est soumis à la gravité, c'est écrasant, on a l'impression d'être attiré par un électroaimant, écrasé par son poids, on a des troubles de l'équilibre, mais on est tellement content de revenir que ça soit bien passé, qu'il y a un peu d'adrénaline, c'est plutôt dans les heures qui suivent que ça devient difficile. Ouais.
196 jours dans l'espace, entre le 17 novembre 2016 et le 2 juin 2017, dans la Station Spatiale Internationale à bord du vaisseau Soyouz, Thomas Pesquet est devenu le quatrième Français à être sorti dans l'espace. Avec Thomas Pesquet, je vous propose de replonger dans l'histoire de la conquête spatiale vue de France. Car l'actualité est très intense. La Chine a envoyé des vaisseaux d'observation sur la face cachée de la Lune. Les États-Unis prétendent retourner sur ce satellite dès 2024. Et il faut bien le dire, des entreprises privées ont lancé de gros investissements pour essayer à leur tour d'entrer dans la course aux étoiles. Alors je vous propose aujourd'hui de replonger dans cette histoire qui parvient à combiner des enjeux essentiels avec une part magique, une part de rêve. Tout a commencé dans le désert. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, des ingénieurs français vont prendre des fusées V2 saisies en Allemagne après la victoire, pour essayer de les réadapter. C'est de 1948 à 1967 que, dans le Sahara algérien, un ensemble de champs de tir exceptionnels sont installés. Ils permettent l'expérimentation de nombreux missiles et aussi lancent les premiers pas de la conquête spatiale.
Alors la technologie elle est militaire à la base. On se met dans une zone qui soit à la fois éloigné de toute population parce qu'on maîtrise pas très bien tout ça, on joue avec des choses qui sont dangereuses et on veut aussi être un peu secret parce que c'est l'après-guerre, c'est la guerre froide, les Russes, les Américains, les Européens, tout le monde essaie un peu de se positionner, c'est des technologies stratégiques, on pense que l'espace ce sera peut-être le domaine militaire où il faudra avoir une suprématie.
Mais il existe un scepticisme en France face à la conquête spatiale. Voici des réactions de Français à l'annonce du lancement du premier Spoutnik le 4 octobre 1957.
Les Russes ont envoyé un satellite de 4 tonnes 500 dans l'espace. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous avez peur ?
Ben non, parce qu'on n'a rien vu.
Moi, je crois que c'est une vaste rigolade.
Je suis fier parce que ça sera merveilleux aussi. C'est sensationnel parce que regardez, quand on montait dans un avion il y a 35 ou 40 ans, tout le monde avait peur. Maintenant, c'est de la rigolade, un avion.
Je trouve qu'on a toujours intérêt à élargir le champ de ses connaissances. Et un satellite artificiel, s'il n'est pas à destination militaire, moi je ne vois pas en quoi ça pourrait me faire peur.
Vous ne trouvez pas qu'il est utile que l'homme aille dans l'espace ?
Pour faire quoi ?
À l'époque, c'est quelque chose d'entièrement nouveau, en fait. C'est pas vraiment arrivé depuis qu'on découvre un champ des possibles vierge de toute trace humaine. Donc voilà, ça peut déconcerter un peu les gens. Mais il y en avait qui avaient déjà tout compris, hein, qui disaient on augmente le champ de la connaissance, on augmente le champ des possibles. Donc tout ça, c'est très positif. Et c'est ce qu'on a essayé de faire depuis, hein, depuis les années 50. Et encore aujourd'hui avec le programme de la station spatiale. Ouais.
À la fin des années 50 et au début des années 60, on s'en souvient, l'Union soviétique et les États-Unis se sont lancés dans une course frénétique à l'espace. Presque au même moment, le 19 décembre 1961, sous l'impulsion de Michel Debré, la France crée le Centre national d'études spatiales. L'idée est, dans ce contexte de guerre froide, de ne pas se laisser distancer par les deux géants américains et soviétiques. C'est le début de la politique spatiale française. On espère envoyer un jour des hommes dans l'espace. Mais en attendant, les Français vont mener des expériences sur les animaux. Et tout commence avec des rats.
Au départ, on ne sait vraiment pas à quoi on se confronte. On ne sait pas ce qu'on va trouver. Est-ce que le corps humain va être capable de résister aux accélérations, à l'environnement cosmique? On ne le sait pas aujourd'hui, on le sait très bien, parce qu'on a étudié l'homme dans l'espace, on sait ce qu'il faut faire pour se préparer, pour se maintenir en bonne santé, pour se protéger. À l'époque, aucune idée. Et donc, malheureusement, on envoie des rats génétiquement, c'est pas si loin de... C'est un mammifère, il y a quand même des points communs. Et puis surtout, c'est petit, c'est résistant, c'est des animaux de laboratoire, hein, la plupart du temps, malheureusement. Et c'est ça qu'on choisit pour être les précurseurs de l'homme dans l'espace. Ça a commencé comme ça dans tous les pays, en Russie, aux États-Unis également.
Alors, j'ai l'impression que les chercheurs français ne sont pas dénués de sens de l'humour, puisqu'après les rats, ils vont envoyer des chats. Et l'un des premiers chats qui est envoyé dans l'espace, c'est en 1963. Il s'appelle Félix et dans les archives d'Europe 1, on a trouvé le récit des expériences qui ont été faites sur lui.
Apparemment, l'opération s'est bien déroulée. Un électroencéphalogramme a été transmis. Et pour Félix, l'impression d'apesanteur n'a peut-être pas été tout à fait une nouveauté. Ou du moins, elle n'a dû l'être que par sa longueur. Le chat doit être en effet un de ceux qui, au cours des bonds qu'ils effectuent journellement, ont le plus d'occasions naturelles de connaître fréquemment de très courtes périodes d'apesanteur.
Oui, bien sûr, parce que l'apesanteur, c'est jamais que de la chute libre, en fait. C'est une chute libre autour de la Terre avec beaucoup de vitesse, mais c'est de la chute. On chute en permanence. Donc, dès qu'on se met en chute libre, que ce soit au sommet d'un bond, que ce soit en se jetant d'un avion avec un parachute, espérons, c'est toujours la même sensation physique.
Après Félix, vient le tour de Félicette en 1964. Félicette est la première chatte à être allée dans l'espace et à en être revenue, contrairement à la chienne lancée par l'Union soviétique Laika, qui elle est partie dans l'espace en 1957, mais n'est pas revenue car aucune solution de retour n'avait été prévue par les soviétiques. Sans doute, les chercheurs français voulaient-ils ménager la cause animale, mais pas seulement.
Sans vouloir être cynique, je pense qu'on voulait aussi récupérer l'animal pour étudier in situ les effets du vol spatial, de la même manière qu'on préfère récupérer les astronautes, aussi pour des raisons scientifiques, pas juste par bonté d'âme. Mais voilà, l'histoire s'est bien terminée. C'est drôle parce que c'est moins connu. Tout le monde connaît Laika, la chienne soviétique, mais les gens ne savent pas qu'on a fait à peu près l'équivalent en France. Et je ne sais pas par contre ce qu'est devenu Félicette suite à son vol spatial. Est-ce qu'elle a donné des interviews? Je me demande, mais je n'ai pas eu connaissance de la suite.
Après l'indépendance de l'Algérie et les accords d'Évian en 1962, le CNES va être dans l'obligation de quitter la base de lancement d'Amaguir. En 1967, il renonce définitivement à ses bases du Sahara. Au total, 14 sites vont être étudiés pour trouver une nouvelle position pour le Centre national des études spatiales. Finalement, le choix va s'arrêter sur Kourou.
Effectivement, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Les Américains et les Russes qui contrôlent l'accès à l'espace disent nous, on veut bien lancer vos satellites, mais pas de communication, pas de satellite d'observation, rien du tout, parce qu'ils veulent garder le monopole. Général de Gaulle dit... négatif, ça ne nous intéresse pas, on va faire notre propre programme. Ça commence comme ça. Ensuite, au moment où on se déplace vers la Guyane, il faut être le plus proche possible de l'équateur. Pourquoi ? Parce que la Terre tournant sur elle-même, il y a un effet de fronde qui est maximal si on s'éloigne de l'axe de rotation. Donc c'est sur l'équateur qu'on est le plus loin. Et les gens nous l'envient d'ailleurs, parce que les Russes, Baïkonour, c'est beaucoup plus au nord, même la Floride, c'est beaucoup plus au nord, donc on a un gain de performance qui est non négligeable. On tire aussi depuis la Guyane au-dessus de la mer, que ce soit vers l'est ou vers le nord, qui sont deux orbites qui nous intéressent particulièrement, une orbite inclinée à zéro, donc sur l'équateur, une orbite polaire, parce que la côte est à peu près à 45 degrés à cet endroit-là. La densité de population est faible, encore une fois, on espère que tout se passe bien pour les lancements, mais si jamais ça se passe mal, on aime autant que ça tombe dans la forêt ou dans l'eau que sur une ville. Et puis c'est un territoire français, D'ailleurs, on le voit aujourd'hui à Baïkonour. Baïkonour, c'était l'Union soviétique à l'époque. C'est devenu le Kazakhstan. Et maintenant, ça pose je ne vais pas dire des problèmes, mais on va dire les relations Russie-Kazakhstan liées à Baïkonour ne sont pas toujours radieuses. Voilà, nous, c'était un territoire français. On s'est dit tout ça, ça va être stable. C'était tous les avantages qui ont été listés à l'époque. Et je pense que c'était le bon choix.
C'est ainsi que Georges Pompidou, le Premier ministre, décide le 14 avril 1964 de prendre un arrêté ministériel pour établir le Centre spatial guyanais à Kourou. Commence alors une tentative pour construire un nouveau lanceur qui pourrait servir à la France dans la conquête spatiale. Un accord est trouvé avec les Britanniques pour essayer de construire une nouvelle fusée, la fusée Europa. Mais celle-ci connaît plusieurs échecs. Si bien qu'en 1973, un nouveau programme est lancé, celui de la fusée Ariane. Elle devra permettre à l'Europe de mettre en orbite ses propres satellites sans dépendre des autres puissances spatiales. La première version d'Ariane 1 effectue son vol inaugural depuis la base de Kourou, en Guyane française, le 24 décembre 1979. Europe 1 était là et nous faisait vivre l'événement.
Nous en sommes à H-2h30.
Ça veut dire un tir à quelle heure, ça, Xavier ?
15h57, si aucun inconvénient ne vient se présenter. Vous savez que tout à l'heure, il y avait eu 57 minutes de retard dû à une panne, d'ailleurs, sans grande gravité.
Bon, c'était une fuite d'hélium, c'est ça ?
Voilà, c'est ça. C'était une fuite d'hélium dans la préparation du deuxième étage. Et actuellement, on procède au remplissage du troisième étage. Alors, ce sont là des gens dont on sent qu'ils ont quand même une certaine tension nerveuse que l'on peut facilement imaginer, mais ce sont des gens qui sont calmes. C'est une ambiance relativement décontractée. D'ailleurs, ils portent tous des chemisettes, même des chemisettes bariolées pour la plupart. Si vous voulez, le costume et la cravate ne sont pas de rigueur.
J'ai parlé à des anciens, enfin je les appelle anciens avec beaucoup de respect, qu'on fait les débuts du CNES ou de l'ESA à Kourou. Et effectivement, il y avait, c'était un peu le Far West en fait. On défrichait au sens propre, hein, parce qu'il fallait installer les pas de tir. Et puis on découvrait tout ça. On allait taper à coups de marteau sur la fusée remplie de carburant. Aujourd'hui, ce serait impensable de faire des choses comme ça. On observait les lancements à 400 mètres. Maintenant, on se met à 5 km. Enfin, c'est vraiment devenu une activité beaucoup plus industrielle, contrôlée, encadrée, un process extrêmement maîtrisé. Alors qu'à l'époque, c'était un peu les découvreurs, mais c'est toujours comme ça. Donc ça devait être une période assez excitante. Ouais.
Plus fondamentalement, Ariane marque un tournant dans l'organisation.
On fait l'Europe à l'époque. On se dit, voilà, on devient amis, la guerre c'est du passé, on ne veut plus jamais ça. On se rend compte qu'on a beaucoup de points communs, qu'on a notamment des besoins, à peu près les mêmes besoins dans le spatial. On fait le programme Europa, on essaie de coopérer, puis on se rend compte que ça ne marche pas très bien, qu'il faut intégrer tout ça beaucoup plus. On crée l'Agence spatiale européenne. Pour avoir des programmes au niveau européen, mutualiser les ressources, ça a du sens, et les bénéfices. Le résultat de ça, c'est Ariane, programme Ariane, que, encore une fois, le monde nous envie. Hein. On a créé un accès à l'espace indépendant et fiable, en fait. On peut avoir des lancements réguliers, on a un programme qui est souscrit sur le long terme, on va dire, avec un carnet de commandes, on lance des satellites institutionnels, donc des satellites de recherche, des satellites gouvernementaux, mais aussi des satellites commerciaux de télécommunications ou de télévision, des choses comme ça. Donc, tout d'un coup, on a ouvert cette porte vers l'espace qui reste ouverte, hein, qui n'est pas juste une petite période dans le temps ou quelque chose d'un peu aléatoire. Non, on a créé cette possibilité et jusqu'à aujourd'hui, et encore pour de nombreuses années, on veut la maintenir ouverte pour que l'Europe ait son programme spatial sans avoir besoin de demander l'avis des autres.
Alors bien sûr, l'histoire d'Ariane n'a pas été linéaire. Il y a eu des échecs, comme celui de septembre 1985, sous l'œil du président François Mitterrand qui s'était rendu spécialement en Guyane pour cela. Et puis cette explosion, en 1996, on ironisera sur le plus cher feu d'artifice du monde. Mais tout de même, Ariane est une splendide réussite commerciale. Mais au début des années 80, la France se lance dans une nouvelle aventure. Essayer de lancer un Français dans l'espace. Ce premier spationaute s'appellera Jean-Loup Chrétien. Il a pu voler une huitaine de jours autour de la Terre au sein de la station spatiale Salyut 7 en compagnie de quatre soviétiques. Il est parti le 24 juin 1982 et le 1er juillet, en plein vol spatial, depuis l'espace, il répond au micro d'Europe 1.
On arrive en Mongolie, on va arriver au-dessus de la Mongolie actuellement. On a passé la France il y a 10 minutes à peu près, et ça vous donne une idée de la vitesse. On passe actuellement la Mongolie. C'est effectivement enthousiasmant. Il y a quand même évidemment une grosse contrainte de travail, c'est que de temps en temps on oublie complètement qu'on est là-haut, et on s'en aperçoit. On aperçoit de nouveau quand il faut se déplacer, quand il faut chercher quelque chose et qu'on se rend compte à nouveau qu'on est en un peu dans peur.
Cette impression de vitesse, le fait de se retrouver en 10 minutes. Moi, je me rappelle de passer de New York à Paris. C'était ça mon expérience sur une orbite de nuit. Mais oui, voilà. Et puis ce côté, on est tellement content d'être là et on a tellement de travail que quelque part, on voit pas le temps passer. Moi, mes 6 mois de mission, c'est passé. J'ai l'impression d'être resté 2 semaines. Alors, j'imagine même pas. C'est les gens qui sont restés juste 8 ou 10 jours. Ils doivent vraiment avoir ce côté expérience un peu virtuelle parce que c'est tellement différent. Mais oui, c'était une nouvelle époque qui commençait. Ça a été politique aussi, le début. Hein. 1980, c'est l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir, hein, avec notamment les votes de la gauche et du Parti communiste de l'époque. 82, Jean-Luc Chrétien qui vole avec ce qui est à l'époque la Russie soviétique. On peut y voir une coïncidence, mais pas forcément. Et ensuite, en 84, je crois, Patrick Baudry qui vole avec la navette américaine, parce que les Américains se disent, mince, on est en train de perdre un allié. Enfin, je ne sais pas, c'est mon interprétation, je suis peut-être un peu loin, mais on se dit, voilà, qu'est-ce qui se passe entre la France et l'Union soviétique? Nous aussi, on peut envoyer des gens dans l'espace, essayons de garder les choses comme elles sont. Voilà, ça commence comme ça, et puis c'est devenu ce qu'on fait aujourd'hui. D'abord, des vols courts, des vols de plus en plus longs, et aujourd'hui, on peut vraiment utiliser l'espace comme un moyen de recherche, ce qui était envisagé à l'époque, mais il a fallu arriver à l'époque de la station spatiale pour que ça se matérialise vraiment.
Ils sont 10 Français depuis 1982 à avoir eu le privilège d'aller dans l'espace. Leur durée de vol s'est allongée. Après les quelques 8 jours de Jean-Luc Chrétien en 1982, Thomas Pesquet, lui, a pu rester 6 mois en vol. Cela explique des changements physiques et des changements dans les conditions de préparation des missions, avec un savoir beaucoup plus important à maîtriser à mesure que la durée des vols s'est allongée. La France n'est pas parvenue à mettre en place son propre programme de vol habité autonome, ni même en coopération avec les Européens. Il y a eu entre 1985 et 1992 le projet Hermès, mais il a été abandonné car les intérêts des différents pays d'Europe divergeaient. C'est pour cette raison que les Français continuent d'utiliser les outils de vol habité des Russes ou des Américains. Beaucoup de choses ont changé donc depuis 1982. Pourtant, il existe des continuités dans le matériel.
Un scaphandre, en fait, le principe, il est assez basique. Hein. Il faut fournir, enfin basique, c'est pas comme si c'était facile à faire non plus, mais il faut fournir une atmosphère à la personne à l'intérieur, un contrôle thermique, de la communication. Donc c'est pas des choses pour lesquelles on a besoin de technologies dingues, mais finalement il faut que ça soit fiable à 600%, c'est ça qui est difficile. Les combinaisons avec lesquelles on décolle à l'intérieur, par exemple du vaisseau Soyouz, qui a été mon expérience, ou les combinaisons de sortie extravéhiculaire, ça date déjà d'il y a quelques années. Même plus que quelques années, le Soyouz est quasiment les mêmes depuis les années 70-80. Mais ça n'empêche pas de travailler sur des nouvelles combinaisons. On va avoir des nouveaux besoins, on veut retourner vers la Lune, aller sur Mars un jour. Donc là, pour travailler à la surface d'une planète, ce n'est pas les mêmes besoins que se mettre en sortie extravéhiculaire ou qu'être assis dans un scaphandre. Il va falloir un nouveau type de combinaison sur lequel on travaille en ce moment.
Précisément, le 1er décembre 2016, Thomas Pesquet, alors qu'il était dans l'espace, s'est exprimé sur les sorties extravéhiculaires en échangeant avec les auditeurs d'Europe 1.
Quand on sort en sortie extravéhiculaire, c'est un peu l'équivalent du parachute sur Terre. C'est comme un saut en parachute qui s'arrête jamais, en fait. C'est vraiment l'expérience où on vole et on est seul et on devient soi-même un objet volant, en fait. C'est vraiment ça l'idée. Et puis on est dans l'espace, dans le cosmos. On a le vide de l'espace juste de l'autre côté de la visière, une mince couche de verre qui nous sépare du néant absolu. Donc c'est des sensations. Sensation, je pense, inoubliable.
Aujourd'hui, il nous précise cette sensation.
En sortie extravéhiculaire, si je m'accroche aux mains courantes qui à l'extérieur de la station, évidemment, pour qu'on puisse se déplacer, et ben si je lâche, sans donner d'impulsion, je vais rester en suspension, en fait, exactement face à ces structures-là, avec 400 km de vide sous les pieds, mais je vais aller nulle part. Ça, c'est pas naturel du tout, parce que si on est accroché à une paroi d'escalade et que tout d'un coup, on lâche les mains et les pieds, avec 400 km de vide ou beaucoup moins, évidemment, on tombe. Donc le cerveau humain, c'est un outil formidable, essentiellement pour se préserver, pour survivre. Donc on a énormément de gros voyants rouges qui s'allument, qui disent « alarme, 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 il ne faut pas faire ça ». Et pourtant, ça marche. Donc il faut apprendre à son cerveau, quelque part, à fonctionner différemment. Et au début, c'est vraiment ça. On accroche une longe, et puis on lâche les mains pour tester un petit peu cette sensation-là et puis apprendre au cerveau que c'est pas la peine de mettre l'adrénaline au maximum parce qu'on ne tombe pas, en fait. Et c'est utile de faire ça. Pourquoi ? Parce que sinon, pendant 6 heures en sortie extravéhiculaire, on va s'accrocher
avec des gants pressurisés, donc qui résistent au mouvement des mains. Hein. C'est comme écraser une balle de tennis. Faire ça pendant 6 heures, au bout d'un moment, ça ne va pas marcher. Donc il faut absolument passer par cette phase d'apprentissage-là. Mais après, au bout de quelques minutes, ça se passe bien.
Après 196 jours passés dans l'espace, Thomas Pesquet s'apprête à rentrer. Et il faut bien le dire, il a soulevé une immense admiration parmi nous. Certains vont d'ailleurs l'exprimer. Écoutez ce que disaient des enfants le 1er juin 2017, à la veille de son retour.
J'ai vu le lancement de Thomas Pesquet, ses expériences qu'il fait. Je me suis dit que c'est super et que j'aimerais bien être astronaute. D'aller sur Mars, ça a été le déclic. Du coup, j'ai commencé à regarder des magazines, à regarder ses entraînements, la centrifugeuse et tout. Et ça m'a donné envie. Dans ma chambre, il y a plein de posters. On voyait des navettes en maquette et tout. Et ça me plaît, enfin, c'est une de mes passions. C'est un rêve en fait.
Le spatial, il y a tout en fait dedans. Il y a le côté aventure, exploration, on prend des risques, il y a du suspense, etc. Il y a un côté rêve, des distances infinies, des beautés incroyables, les nébuleuses, la cosmologie, les planètes. Et puis, il y a un côté technique, technologique. On veut être des pilotes, des super pilotes, des trucs comme ça. Donc ouais, ça fait rêver les enfants. Tant mieux, parce que on va avoir besoin d'eux, hein, c'est rien de le dire, pour les générations futures. On a besoin d'eux dans le spatial. Hein, on a plein de nouveaux projets pour toutes les années qui viennent. On va avoir besoin de gens brillants, passionnés, intéressés. Et puis voilà, alors tout le monde ne sera pas astronaute, c'est certain. Hein, il faut avoir une chance folle. Mais c'est pas grave, parce que même si on n'est pas astronaute, il y a plein de boulots qui sont absolument fascinants. Moi, j'étais pilote avant, j'étais ingénieur avant, et j'ai fait des choses que j'adorais, et je sais que j'aurais pu être heureux toute une carrière travaillant dans le domaine spatial, parce que ça nourrit l'imagination, et puis ça nous dépasse, en fait. Je pense que l'être humain a besoin d'un truc qui le dépasse. Si tout est à hauteur de l'homme, on s'ennuie, au final.
Aujourd'hui, la Lune est redevenue un horizon. Et cela pour des finalités différentes. La recherche, bien sûr, mais aussi, parfois, avec des pensées commerciales.
On voudrait y retourner avec les agences, hein, pour avoir une présence un peu plus durable que ce qu'on a fait à l'époque. À l'époque, c'était la compétition idéologique. On a voulu aller planter un drapeau, être le premier à le faire. On a fait quelques expériences scientifiques, mais c'était vraiment pas le but, on va dire. Aujourd'hui, on voudrait faire un programme en coopération. On sait qu'il y a plein de choses intéressantes à faire sur la Lune. On voudrait aller se mettre sur la face cachée, être protégé des rayonnements électromagnétiques et des perturbations, observer le fond de l'espace, remonter dans le temps en faisant ça. On a tout un programme qu'on veut mettre en place. On se rend compte, en fait, que c'est difficile. Enfin, on le savait, mais c'est vraiment en se confrontant à cette tâche-là qu'on mesure l'exploit qu'ils ont fait dans les années 60. Voilà, donc on a ce programme, on va dire, institutionnel, scientifique. À côté de ça, on a des partenaires privés, évidemment, qui construisent le matériel pour nous. Et eux se disent, tiens, pourquoi pas valoriser ça ? On voyait des astronautes non professionnels, on va dire, pour des petites périodes de temps, hein, pas pour 6 mois, mais pour quelques jours à bord de la station spatiale.
Depuis les États-Unis, où il est parti travailler à la NASA et préparer un prochain vol, Thomas Pesquet explique les objectifs des spationautes.
Le présent, c'est la station spatiale. Hein. Tous les partenaires ont accepté, sont mis d'accord pour prolonger la station jusqu'en 2024, au moins. On pense tous plus ou moins que ça ira jusqu'à, allez, on va dire, la fin des années 2020, 2030 peut-être, parce que cette station qu'on a mis 10 ans à construire, il faut l'utiliser au maximum de ses capacités. Et ça, c'est ce qu'on essaie de faire en ce moment. Donc d'ici, allez, on va dire à 2030, il devrait y avoir des vols réguliers vers la station spatiale qui ressemblent un peu à ce que j'ai fait la première fois, hein, donc beaucoup de recherches. Mais la petite différence, ce serait, la grosse différence, ce serait un peu le rôle à bord. On est vétéran maintenant, hein, ça me fait sourire de le dire, mais vétéran de l'espace, je peux partir avec des gens plus jeunes, on peut avoir des tâches, un peu plus de responsabilité, on va dire, dans la conduite des opérations. Et le moyen d'accès à la station spatiale, il se pourrait très bien que ce soit depuis Cap Canaveral, avec les nouveaux véhicules, les nouvelles capsules qui sont développées par la NASA avec ses partenaires commerciaux, hein, SpaceX et Boeing. Ça devrait être ça maintenant pour les Européens, comme mes collègues et moi, le vecteur d'accès à la station spatiale.
Et son départ est prévu pour
2021, aux alentours de 2021. Je ne sais pas vous dire si c'est au début de l'année ou à la fin de l'année, mais ça devrait être à peu près dans ces eaux-là. Ouais.
Au terme de cette histoire de l'aventure spatiale, quand on demande à Thomas Pesquet s'il aimerait un jour faire le voyage vers Mars, une lumière s'allume dans son regard.
On est tous un peu explorateurs, en fait. On a envie d'aller mettre le pied là où personne ne l'a jamais mis. Et puis, ce serait tellement une aventure incroyable. Imaginez l'amplitude des missions Apollo, mais la Lune, c'est le, c'est le voisinage de la Terre. La station spatiale, c'est 400 km. Donc c'est même pas un Paris-Lyon. En hauteur, certes, mais quand même. La Lune, c'est 384 000, donc 400 000. Il y a un facteur 1000. Mars, on va dire, entre trajectoire des planètes, c'est entre 40 millions et 400 millions. Donc il y a à chaque fois un facteur 1000. On va 1000 fois plus loin. Et Mars, c'est une planète, c'est la sœur jumelle de la Terre. Imaginez les images en direct de quelqu'un qui pose le pied sur Mars et de tout ce qu'on pourrait y faire ensuite. Ce serait une aventure tellement dingue. L'aventure humaine la plus phénoménale de tous les temps, je pense.
Votre podcast Au cœur de l'histoire prend ses quartiers d'été, alors il faut en profiter pour remercier tous ceux qui participent à cette magnifique aventure. Il y a d'abord ceux qui préparent cette émission, Simon Maisonneuve, Adèle Salmon. Il y a toute l'équipe d'Europe 1 Studio autour de Claire Azan, je pense à Michael Frison, à Guillaume Perraudeau, à Fanny Rascle, ainsi qu'à Adèle Ponticelli. Et puis, à tout seigneur tout honneur, il y a les réalisateurs qui travaillent dans le service de production sous la houlette de Christophe Daviau, alors évidemment Thomas Caillet, Julien Tarot. Ce sont eux qui, semaine après semaine, ont ajouté des effets, mis des musiques, en bref, transformé ma voix en un chef-d'œuvre cinématographique. Et puis, les archives d'Europe 1 qui régulièrement nous fournissent ces petits bijoux, ces perles qui nous permettent de nous replonger dans le passé. Une mention spéciale pour deux personnalités qui soutiennent ce projet, Olivier Landres et Xavier Joly. Il faut remercier tous les camarades d'Europe 1 qui, épisode après épisode, ont prêté leur voix pour y ajouter de la vie. Un mot encore pour vous remercier de votre fidélité à l'écoute d'Au cœur de l'histoire. Vous faites vivre notre groupe Facebook et régulièrement vous m'envoyez de très beaux sujets qui nous ont servi à élaborer l'émission. À tous, un grand merci. À très bientôt.